l'interview de Grégoire Hetzel. Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Alors Grégoire, on ne vous présente plus, hein, vous êtes un des compositeurs incontournables du cinéma français. Trois films dans l'actualité, notamment donc Tromperie, qui sort le 29 décembre de Arnaud Desplechin, cinéaste que vous retrouvez chaque année, ou presque. Tromperie, donc. Ensuite, La Croisade, sorti le 22 décembre de Louis Garrel, que vous retrouvez 12 ans après un moyen-métrage, Petit Tailleur, en 2010. Et puis enfin, Amant, de Nicole Garcia, que vous rencontrez cette fois-ci. Nous allons donc aborder ces trois films. Amant, donc, avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel, un thriller sentimental sur fond d'accidents mortels, de trios amoureux, de jalousie. La rencontre avec Nicole Garcia, comment s'est-elle produite, Grégoire ?
Je l'avais déjà rencontré dans un train, il y a quelques années auparavant. On avait sympathisé. Et donc, elle a fait appel à moi, après avoir fait appel à d'autres compositeurs qui malheureusement ont échoué. Elle était en cours de montage, elle n'avait pas tout à fait terminé de monter, et même elle changeait de monteur. Donc je me suis retrouvé avec Juliette Welfling, avec qui j'avais jamais travaillé, qui est une monteuse extraordinaire.
Et donc de quelle manière elle a exprimé ses premières intentions, quelle a été sa manière de s'exprimer par rapport à la musique ?
Ça a été tout le temps une espèce de... presque de lutte, je dirais. Ça n'allait pas dans mon sens naturel. C'est qu'elle voulait que ce soit froid. Elle voulait que la musique soit toujours distanciée, qu'elle ne dépasse pas le film, qu'elle n'aille pas au-delà des personnages, enfin, qu'elle ne dise pas davantage que ce qui était montré. Donc elle ne voulait pas que la musique ajoute, en fait. Elle voulait que la musique soit plutôt sourde et plutôt intérieure, retenue, que ce soit comme une angoisse sourde.
Comme beaucoup de réalisateurs, elle avait peur de la redondance et du trop lyrique.
Elle avait peur, en fait, que je change sa direction, qu'elle change ce qu'elle voulait à l'image et au jeu. Et c'est ce qu'on voit à l'image et au jeu, c'est que les personnages sont assez distanciés, sont extérieurs à leur propre existence. Et c'est vrai que ajouter à ça une musique qui dirait qu'ils sont plus profonds, plus complexes, plus avec des sentiments, disons-le, la gênait. Elle voulait que tout reste très contenu. Pour moi, c'est très très difficile de faire une musique froide. C'est pas du tout dans mon tempérament, c'est drôle. Mais du coup, j'ai dû sans cesse me taper sur les doigts.
Se freiner finalement, ce...
Tout le temps. Mais elle est très très sensible. Le moindre accord, la moindre note lui parle. Donc à chaque fois, elle me disait non, pas cette note-là. Et elle avait toujours raison. C'est vrai que c'était la note, l'harmonie, l'accord qui pouvait tout changer. Et il fallait que je me réfrène tout le temps.
Quel est le rôle de votre musique dans ce film ? Est-ce que c'est quelque part un soutien au thriller ?
Oui, c'est totalement un soutien au thriller, à l'angoisse sourde et au présage, au mauvais présage. Parfois même à la catastrophe, par exemple la scène de l'overdose. Pour cette scène, je crois que j'ai dû faire 15 ou 20 versions différentes avant d'arriver en studio à la version définitive. Chercher devant les machines, c'est plus finalement, c'est moins efficace que d'être en studio avec des musiciens et des ingénieurs du son, et voire même des synthés. Et je me rends compte qu'on serait allé plus vite, en fait, pour ce morceau-là, sur lequel on avait buté, sans jamais être parvenu à quelque chose de totalement satisfaisant, pour elle en tout cas, parce que moi, il y a des tonnes de morceaux que j'aimais beaucoup, mais bon, on n'avait pas le même point de vue. Même la monteuse, d'ailleurs, n'était pas toujours d'accord avec Nicole, c'était vraiment elle qui tranchait, mais moi, j'ai fait une musique un petit peu contre moi, même si je l'aime beaucoup. J'ai aimé me contraindre, de toute façon, c'est aussi notre métier.
Est-ce que les personnages vous ont inspiré pour la musique et la relation entre les personnages, une relation trouble, des romances, une sensualité ?
Je dirais que c'est plus une musique de situation qu'une musique de personnage. Il y a des motifs, mais disons qu'il n'y a pas de thème, ce n'est pas une musique qui chante. D'ailleurs, toujours, elle me disait, non, il ne faut pas que ça chante. J'avais interdiction de chanter. Dès qu'il y avait voilà, plus de trois notes qui exprimaient quelque chose de mélodique, tout de suite, elle me disait, non, pas de mélodie, pas de mélodie. Il y a quelques motifs quand même. À un moment, quand l'amant est là, et Stacy se balade dans la neige, je sais pas si vous vous souvenez, ils sont en voiture comme ça dans la neige, tout ça. Là, il y a un vrai motif, et c'est marrant d'ailleurs parce que je me suis inspiré, vous savez, des pas dans la neige de Debussy. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit motif qui est tatin. Je me suis un petit peu inspiré de ça. Voilà, j'ai fait une sorte de référent. Et voilà, à part ce moment-là qui est un moment assez doux et voilà, de tendresse, de répit, hein, avant la catastrophe finale. Et la musique de la fin, qui est vraiment une musique d'ouverture totale, thématique, mélodique, qui est du pur moi, justement. C'est marrant, parce que là voilà, j'étais, mais il n'y avait plus d'image. Et d'ailleurs, Nicole était ravie tout de suite du thème, tout ça.
Vous avez évoqué la présence de sonorités synthétiques dans la partition. Ça, c'est pas forcément très fréquent dans votre travail. Quel est votre rapport à ces sons électroniques et l'alliage entre le digital et l'organique?
Alors ça, j'aime beaucoup mélanger les deux. Il y a beaucoup de moments de pur, purement électro. Alors ça, c'est un processus assez étrange, en fait. Je choisis avec mes synthés, mes sons. Je suis à la recherche d'un son qui me plaise, à la fois qui me correspond et qui exprime évidemment ce qui doit être dit avec toute l'ambiance du film lui-même. C'est très organique, étrangement, comme processus aussi. C'est-à-dire qu'on transforme les choses, on les distend, on les tord. Je vais chercher même dans des choses que j'ai enregistrées, même de cordes que je stretch, vous voyez. Que je transpose et tout ça donne de la texture hyper intéressante, où je les passe dans des longues réverbes. Enfin, c'est tout un travail, mais qui n'est pas tant un travail musical qu'un travail d'ingénieur du son. Dans ces moments-là, je me transforme en geek, enfin, ça devient totalement autre chose. Mais j'aime beaucoup faire ça.
Amant, donc, de Nicole Garcia, dans les salles. D'entendre un dernier extrait musical de votre musique Grégoire Hetzel pour Amant de Nicole Garcia. Et maintenant, La Croisade de Louis Garrel, avec Louis Garrel et Laetitia Casta, à l'affiche le 22 décembre. Comédie écologiste, une fable sur l'enfance, mais aussi une chronique familiale. C'est donc deux enfants qui découvrent la cause écologiste et partent en mission sauver la planète avec des centaines d'enfants à travers le monde. Louis Garrel le père, Laetitia Casta la mère, tout d'abord un peu sceptique hein, sur cette mission, et puis au fur et à mesure, les personnages vont évoluer. Retrouvailles avec Louis Garrel après le moyen métrage Petit Tailleur en 2010, c'est assez étonnant comme ça de se retrouver longtemps après.
Oui, alors on s'est jamais totalement perdu. À chaque fois que Louis faisait un film, il vient me voir. Mais souvent j'étais pris, voilà, par des j'étais déjà pris. Et puis comme lui, il a besoin d'un processus long. Il allait voir Sard, qui a toujours des fonds de tiroir et qui lui donnait des choses avec lesquelles il montait. Il s'y habituait. Il a besoin de sentir qu'on est totalement dévoué, si vous voulez. Voilà, c'était pas les bons moments. Mais bon, j'ai jamais cessé de le voir. Je suivais tous ses films, il me faisait écouter les musiques, machin, il me montrait des bouts. Mais là, comme j'étais plus disponible, voilà, on s'est mis à vraiment bien travailler. Alors, c'est complètement différent de Nicole. En fait, c'est ça qui est bien dans mon job, c'est que je passe d'un univers à un autre. Donc là, évidemment, c'est un univers d'enfant, c'est assez drôle. En même temps, c'est un film très sérieux. Il venait et puis j'improvisais au piano, on cherchait des thèmes, on cherchait des choses sur les images ou même sans images. Ça a été totalement l'inverse finalement de Nicole Garcia. On est d'abord parti du thème de la mélodie. Dépouillement total, puisque c'est, je crois, que du piano, parfois piano et flûte. Le piano est lié effectivement au couple qui se délite à mesure que l'enfant prend le pouvoir sur ses parents, en quelque sorte, et que, voilà, que la mère suit l'enfant et que le père fait une forme de résistance.
Et donc, il y a ce piano pour le couple, il y a aussi donc beaucoup d'orchestres, il y a cette musique de l'enfance qui convoque l'émerveillement de l'enfance. On pense à un cinéma des années 80 américain où on est vraiment dans le merveilleux.
Là, c'est davantage de l'épique, en fait. Il y a comme ça une scène où les enfants reproduisent l'Afrique dans la forêt de Fontainebleau. Ils reproduisent une carte de l'Afrique et ils établissent des plans. Ouais, c'est une musique plutôt épique. Effectivement, on a voulu quelque chose un peu à la Spielberg, enfin, où une forme à la fois d'émerveillement et de rêve, mais de rêve grandiloquent. Les enfants deviennent des super-héros en quelque sorte. D'ailleurs, ça prend en charge ce qui n'est pas. C'est-à-dire que le film est un film à petit budget, donc il n'y a pas, on va pas apporter l'océan dans le désert, dans le Sahara. En revanche, la musique prend en charge ses rêves de grandeur, de transformer le monde.
Et ça, c'est intéressant. La musique, en quelque sorte, est une vraie représentation de l'invisible. Va être un chemin complémentaire à l'image. Va pouvoir faire exister quelque chose qui n'est pas filmé. Et en quelque sorte, pour pour un film comme cela, qui est sur l'écologie, qui a d'ailleurs été sélectionné au Festival de Cannes dans, dans une programmation spéciale pour le climat, en quelque sorte, est-ce que la musique pourrait être aussi de l'ordre de l'utopie, de faire exister un projet qui n'est pas là encore présent?
Moi, ce que j'aime dans le film, c'est qu'il ne se prend pas du tout au sérieux, alors que le sujet est extrêmement sérieux. D'ailleurs, on voit à un moment Greta Thunberg... C'est vraiment l'histoire des enfants qui prennent en main le destin de la planète, qui décident de lutter contre leurs parents pour réussir à sauver la planète.
Il y a dans la musique cette idée de soutenir le combat des enfants. La musique pourrait tout totalement être en contrepoint et rendre ridicule ce combat. Alors que là, on y croit avec eux, on est vraiment de leur point de vue.
Oui, c'est vrai. La musique voilà, prend absolument leur volonté au sérieux parce que c'est un sujet grave. En même temps, le film est extrêmement léger et drôle et une comédie autour de ça. Mais c'est vrai que la musique accompagne effectivement l'importance des travaux développés par les enfants.
Nous venons d'écouter un dernier morceau de Grégoire Hetzel pour La Croisade de Louis Garrel en salle le 22 décembre. Et puis enfin, terminons avec Tromperie, le dernier film d'Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès et Léa Seydoux, adaptation de Philippe Roth. C'est presque un peu son propre rôle, hein, puisque le personnage principal du film s'appelle Philippe, écrivain américain, exilé à Londres, et qui a donc une maîtresse, Léa Seydoux, qui vient régulièrement le retrouver dans son bureau. Donc il y a un film comme ça, sensuel, charnel, avec ce huis clos et une attention aux verbes, aux mots, non seulement le personnage et écrivain, mais il y a aussi beaucoup le dialogue et la voix dans ce film.
En fait, c'est des carnets de dialogue, donc ils devaient enregistrer, j'imagine, ou retranscrire les conversations avec ses maîtresses, et que sa femme a trouvé. Donc c'est là que ça devient romanesque, enfin, en tout cas dans le film et dans le livre, sa femme trouve les... Donc après la femme devient un personnage, sa femme devient rentre en scène à partir du moment où elle l'a quitté. Enfin, ils sont divorcés après la découverte de ses carnets. Donc c'est une chose très sérieuse, si vous voulez. Et ensuite, il a publié ses carnets avec les dialogues, voilà, avec ses maîtresses et avec sa femme. Et lui fait croire, c'est ça l'histoire, c'est que lui fait croire évidemment que c'est du roman, que c'est des notes pour des personnages de roman, pour des personnages de maîtresses, mais qui ne sont pas ses maîtresses. Roth n'en a pas fait un roman, mais Arnaud en a fait un film romanesque.
Huitième collaboration avec Arnaud Desplechin, qui vient après Roubaix une lumière, comment vous, votre regard sur cette collaboration, est-ce que vous ressentez comme ça une évolution?
Ça va en crescendo. Roy Rennes, c'était très facile parce que j'avais 15 jours pour composer la musique. Donc je n'avais pas le droit à l'hésitation, et dans ces moments-là, on est très très inspiré, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'était assez extraordinaire, ça c'était la première rencontre. Ensuite, il y a eu Conte de Noël, là c'était extrêmement difficile, ça a été très très dur, on a failli se battre, j'exagère, mais on était voilà, c'était très très tendu, très difficile. Et ensuite, en fait, c'est devenu de plus en plus, je dirais pas facile, mais de plus en plus évident. C'est-à-dire que maintenant que je comprends son langage, je comprends son esprit, je comprends sa manière de faire, même si on a des sujets différents, même si on va faire des musiques différentes, parce qu'à chaque fois, c'est quand même une recherche, à chaque fois, c'est une chose. Enfin, il y a des points communs entre d'un film à l'autre, ça, on le sait, aussi bien dans son cinéma que forcément dans ma musique. Mais je dois dire que c'est de plus en plus évident, à tel point que là, j'ai dû composer en 3 semaines 2 films avec lui. Ça a été extrêmement rapide. C'est-à-dire que, je travaille beaucoup, hein, mais vous voyez, je travaille la nuit, par exemple, je le vois l'après-midi, et je joue, parfois même, j'improvise un petit peu des choses, etc., où je lui fais écouter ce que j'ai composé la veille, enfin la nuit, je compose la nuit. Et le lendemain, il revient et il me dit 2, 3 trucs et c'est plié. Enfin, je veux dire, en 2 jours, la musique et les morceaux sont composés, vous voyez, les séquences sont composées. Donc, c'est très, très, très agréable. C'est carrément, ça devient génial, quoi. Enfin, à travailler. Et puis il a toujours une telle exigence que je dirais que ce n'est absolument pas un relâchement. Au contraire, c'est d'ailleurs à chaque fois je jubile de le retrouver parce que je sais que ça va être d'une exigence implacable et qui va me voilà me porter vers le haut musicalement.
Toutes vos musiques pour lui ont servi de référence pour ce film-là.
Maintenant, il met souvent mes musiques effectivement en référence. Mais ce qui ne veut pas dire que je vais faire la même chose. Hein. C'est comme si c'était un enfant qui grandissait, en fait, et qui apprend au fur et à mesure. C'est ça, qui fait son latin et son grec, et qui devient mathématicien. On évolue, on grandit, et c'est finalement ça qui est merveilleux. Mais c'est toujours le même. Vous avez raison, c'est le même individu musical.
Alors, le sujet du film, le désir et la mort qui se mêlent, sensualité, désir charnel, et puis une mort qui rôde. Et c'est donc la dimension aussi romanesque, on l'a évoqué. Il y a aussi le chagrin. Et votre musique est autour de tous ces sentiments, mais a une unité.
Alors déjà, il y a un motif. Je peux vous le jouer au piano. Un motif commun à pas mal de morceaux. Moi, je dirais qu'il y a quand même 3 styles. Il y a le jazz, il y a la musique de polar qui est liée à la Tchécoslovaquie, donc des interrogatoires, des filatures, et il y a la musique du. Et après, là-dedans, il y a des sous-catégories par personnage, effectivement, le personnage de la maîtresse et le personnage de la femme, qui est une musique davantage une musique de sentiment, de culpabilité, de désir, de sensualité, effectivement.
Et le personnage étant écrivain, comment ensuite traduire le personnage d'écrivain en musique?
De toute façon, ça parle tout le temps. C'est un film totalement littéraire. Donc la musique, elle doit, à part à de brefs moments, elle est sous les dialogues, comme souvent d'ailleurs dans les films de Desplechin. Du coup, elle doit s'insinuer. Elle est comme, je dirais, elle est comme la voix du narrateur, en quelque sorte, comme un serpent qui s'immisce comme ça entre les voix.
Et le choix d'un piano jazz, le jazz étant pas forcément non plus votre musique habituelle, comment vous avez approché ce style?
Alors ça, c'est une volonté d'Arnaud. Le jazz, ça exprime en fait je dirais le bouillonnement littéraire, l'improvisation de la plume, vous voyez, l'écrivain au travail. Les ratures, voilà, la fièvre, la fièvre d'écriture, l'hésitation, vous voyez, c'est toute la rythmique finalement de l'écrivain. Et c'est vrai que le jazz exprime ça magnifiquement. Arnaud, il me dit toujours soit plus Monk, plus Thelonious Monk, vous voyez. Donc c'est voilà, je dois être claudiquant, je dois être bancal, vous voyez, alterner des choses rapides ou des choses lentes. Enfin, je dois voilà jouer avec comme ça avec la.
Très souvent, dans le jazz, une part d'improvisation.
De toute façon, ça part toujours d'improvisation. Tout ce que j'écris part d'improvisation. Après, je note les choses, mais ça me Les mélodies et tout ça, les harmonies me viennent par le digital. C'est très, chez moi, c'est les mains qui écrivent la musique au départ. Avec le clavier numérique, j'enregistre, vous voyez, ce que j'improvise, donc rien n'est perdu. Moi, j'adore fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on parle, on regarde les images et on voit ce que mes doigts me disent, quoi. Quand les doigts deviennent un outil totalement naturel, c'est-à-dire que finalement, mes doigts, moi, je parle assez mal, je pense assez mal oralement, mais mes doigts pensent beaucoup mieux que moi. Vous voyez, et je suis musicien, quoi. Je ne suis pas orateur, ni... et ben, mais je dirais que mes doigts sont ma pensée musicale. Donc, j'ai même pas à réfléchir, vous voyez. Et voilà, quand mes réalisateurs viennent, ils me disent des mots, machin, j'improvise, et on trouve tout de suite un tempo, des motifs, une ambiance, vous voyez, c'est très concret. J'improvise aussi avec des cordes, avec une flûte, vous voyez, parfois je mêle plusieurs instruments. Donc on a déjà aussi une texture, au cas où le piano serait un outil qui nous paraîtrait, vous voyez, trop classique, ou trop connu, ou trop, j'en sais rien, ou trop sentimental, trop expressif, j'en sais rien. Bon, parfois, voilà, je peux aussi improviser avec d'autres instruments, vous voyez. Donc je trouve que enfin, en tout cas, moi, c'est la méthode que je préfère.
Alors, la mise en scène d'Arnaud Dupéchin est très minimaliste. Un espace clos, une unité hein, de temps et d'espace, même s'il y a des va-et-vient, des montages parallèles avec des récits différents. Votre musique est un peu comme, par exemple, dans La Croisade, où vous disiez qu'elle convoquait quelque chose qui n'était pas forcément filmé, un merveilleux. Et ici, j'ai l'impression qu'elle est aussi, elle élargit le cadre. Hein, elle est un peu un hors-champ romanesque, comme on le disait, cette dimension d'élargir le cadre de ce huis clos.
Oui, ça c'est très vrai. Donc c'est très vrai que la musique déborde le cadre, élargit le cadre. C'est très juste. Effectivement, le film se passe en appartement. À un moment donné, c'est comme tout à coup, c'est comme si on ouvrait la fenêtre vers un infini et on se retrouve dans un parc, et un autre moment dans la neige d'ailleurs, et on respire, on respire. Mais l'autre respiration, c'est vrai, c'est l'autre fenêtre, l'autre horizon, c'est la musique dans le film. C'est très juste.
Dans Roubaix, une lumière, le précédent film d'Arnaud Desplechin, c'était la première fois que votre musique n'était pas en concurrence, je serais tenté de dire, avec des musiques préexistantes. Là, il revient à l'emploi de musique préexistante. Il y a des pièces classiques à côté de votre musique. Quel est votre regard sur cette dualité?
Alors, plus que mon regard, parce que c'est moi qui joue au piano, et le Quatuor, La Jeune Fille et la Mort, on l'a fait jouer par des musiciens, par un quatuor, pour avoir des points de synchro, pour s'arrêter sans avoir à couper, vous voyez. On l'a vraiment interprété à l'image.
Ce sont des musiques préexistantes, mais une interprétation originale, quoi.
Voilà, exactement. C'est moi qui joue les Chopin, tout ça. Mais le Ravel, ce qui est marrant, c'est que je joue donc le concerto de Ravel sans l'orchestre, tout le début du mouvement lent. Vous avez là, tout, tout, tout. En fait, je me suis rendu compte que j'avais joué justement un petit peu de jazz et j'ai pas joué totalement. Métronomique, et du coup ça donne un côté un petit peu monkien qui peut voilà qui peut faire écho aux musiques de jazz qu'on avait auparavant, enfin tout autour.
Et finalement, en interprétant vous-même cette musique préexistante, vous amenez cette musique préexistante finalement à faire un pas vers la musique originale.
Oui, bien en plus c'est le même piano, c'est le même pianiste, donc c'est totalement raccord.
Et il y a aussi un aspect ludique dans ce film, malgré la gravité du sujet, avec un jeu sur les langues, sur les accents, sur les frontières entre les différents pays, Prague, Londres.
La musique pragoise, bon, c'est tout bête, hein, mais il y a une petite couleur locale de cymbalum. Voilà, mais très, très discret comme ça. Mais, donc, et puis la musique de Prague est différente, c'est une musique oppressante, c'est une musique C'est une musique voilà, qui subit le joug stalinien. Donc, c'est un film à petit budget. On se retrouve pas. Voilà, il n'y a pas eu de voyage à Prague. Ce qui est marrant, c'est que la musique a été enregistrée à Prague. Mais pareil, on n'y est pas allé. C'était pendant les confinements. Donc, on a fait ça à distance par Internet. Mais la musique pragoise a été enregistrée à Prague. Justement, qu'on sente la différence, vous voyez, aussi des géographies, ou que ce soit distinct.
Penser l'instrumentation, l'orchestration très tôt.
Ouais, très tôt, tout de suite, j'orchestre. Voilà, je note les motifs, les thèmes, tout ça, et j'orchestre très très vite de manière très succincte. Hein. Voilà, c'est comme des croquis d'orchestre, si vous voulez. Et puis après, je rentre dans le détail. Oui, je viens très très vite à l'orchestre.
Pour terminer, quel regard vous avez sur l'évolution de la musique de film depuis que vous avez commencé?
À part, effectivement, avec les réalisateurs avec qui je travaille depuis longtemps, il y a une évidence parce que tout simplement, il y a une confiance. Je dirais ce qui prime avant tout, c'est la confiance. Si le réalisateur a confiance dans le compositeur, dans sa capacité à rechercher, à se planter, parce qu'on peut se planter. Je veux dire, moi, ça m'arrive pour le film de Nicole, parfois j'ai fait, je vous dis, 15 versions pour arriver à la version définitive. Donc, il faut pas avoir peur de se planter, de recommencer, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que quand ça se passe pas bien, quand je sens que je bute trop longtemps, en général, on arrête. Au bout d'un moment, on arrête. Si je sens que le réalisateur n'est pas en confiance et en plus que mon contrat n'est pas signé, là, pour le coup, il vaut mieux renoncer. Quand quelqu'un n'a pas confiance, c'est désagréable, en fait. Je peux pas travailler comme ça, tout simplement. Il faut que le réalisateur ait confiance. J'ai travaillé donc, avec une réalisatrice. Je travaille pendant 15 jours, une semaine sur un thème. Bon, et puis, elle arrive pour notre rendez-vous. Elle dit, ah, finalement, pour ce morceau, ça va. J'ai trouvé, en écoutant Spotify, j'ai trouvé un morceau. Je l'ai mis sur les images. Ça cartonne. Ne t'emmerde plus avec ça. J'avais quand même travaillé pendant 15 jours sur le truc. Alors, vous voyez, quand ça se passe comme ça, c'est un peu chiant. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas très sympa, quoi. Je pense pas que ce soit lié à l'époque, etc. Et je sais que moi, en tout cas, j'aimerais qu'on m'appelle, en fait, pour faire de l'électro. Moi, j'adore ça. Et j'aimerais bien, par exemple, là, j'ai écouté le film d'Audiard. Enfin, écoutez, j'ai vu le dernier film d'Audiard.
Les Olympiades.
Ouais, avec la musique de Rhône que j'adore. Et voilà, ça, moi, j'adorerais faire ce genre de musique. Ça, je trouve ça top parce que c'est à la fois, y a un truc lyrique, c'est mélodique, c'est hyper cinématographique. Et c'est en même temps il y a des sons inouïs, enfin ça je trouve ça j'adorerais par exemple faire des musiques comme ça. Il y a énormément d'électro dans les films d'aujourd'hui et c'est vrai que c'est parfois j'ai envie d'abandonner l'orchestre et faire plus d'électro, même si j'en fais un petit peu. Je trouve que c'est voilà, j'aimerais bien faire une partition que électro. Je l'ai fait parfois pour la télé d'ailleurs, bizarrement à cause du peu de budget, et en particulier avec un réalisateur qui s'appelle Renaud Bertrand que j'aime énormément. À chaque fois je fais des super musiques pour lui, mais c'est des, vous voyez, c'est des téléfilms, donc ça passe une ou deux fois et après ça meurt malheureusement, mais je sais que j'ai fait des, ouais, j'ai adoré faire des musiques voilà au synthé quoi. Ouais, ça me dirait bien.
Et bah, beau message, et puis on rejoint l'idée de la confiance, que des réalisateurs puissent faire confiance à un compositeur qui puisse aussi faire autre chose que ce qu'il a déjà fait quoi. Voilà, c'est l'idée de créer de nouvelles choses.
Ouais, exactement, exactement.
Merci Grégoire. Et on se quitte avec un dernier extrait musical de votre partition pour Tromperie de Arnaud Desplechin à l'affiche le 29 décembre. Au revoir.